France Inter.
France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Une spécialité française servie à 500 000 d'élèves ce matin, l'épreuve de philosophie du bac. Parole de candidat dans un instant, ce qu'il fallait répondre avec notre invité. Et puis à 13h50, les mots du bac selon nos régions, ce sera avec notre linguiste Mathieu Avanzi. À suivre encore, la guerre Israël-Iran, nouveau bombardement ce matin, nous écouterons des témoignages d'habitants sous les bombes dans les deux pays. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour à vous.
En direct d'Istanbul, Marie-Pierre, vous nous direz ce que visent précisément les Israéliens.
Empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique, c'était imminent, selon le premier ministre israélien Netanyahou, ou provoquer un changement de régime. La question se pose au regard de l'ampleur des dégâts infligés, notamment au lieu de pouvoir dans la capitale Téhéran.
A tout de suite Marie-Pierre, alors qu'au salon du Bourget, près de Paris, la France a fait fermer ce matin des stands d'industriels d'armement israéliens. Nous serons sur place. Dans l'actualité également, l'hommage national aux deux pompiers morts la semaine dernière à Laon, dans l'Aisne. Nous serons sur place. Et puis à partir de 13h30, le maire de Laon sera notre invité, tout comme le porte-parole de la Fédération nationale des pompiers. Nous parlerons des risques que prennent les pompiers quand ils interviennent dans des centres anciens, parfois dégradés. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages. Je ne pars pas en fuyant les mots de Lucas Demeo, le patron de Renault, qui va rejoindre le numéro 2 du luxe, le français Kering. On vous explique pourquoi. Nous verrons aussi qu'une Française est soupçonnée de meurtre en Islande, meurtre sur son mari et sur leur fille. 13h45, notre feuilleton dans la vie d'une tatoueuse thérapeutique.
C'est des warriors, c'est des guerrières ces femmes-là. Et moi je voulais faire partie de ce processus-là. Et si c'est par l'art, bah, c'est encore mieux. Quand on parle de tatouage thérapeutique, c'est vraiment de la reconstruction.
Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, l'humoriste Nicole Ferroni avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Leurs avenirs se jouent surtout dans les méandres du logiciel Parcoursup en ce moment. N'empêche, c'est quelque chose de se retrouver devant sa feuille blanche un matin de juin pour l'épreuve de philosophie du bac. Expérience vécue ce matin par plus de 530 000 lycéens de terminale, filière générale et technologique. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Sonia, vous êtes en direct du lycée Jean-Baptiste Corot. C'est à Savigny-sur-Orge, dans le département de l'Essonne. Est-ce que les lycéens que vous avez rencontrés ont été inspirés ce matin ?
Oui, plutôt inspirés par les sujets comme Gabriel, tout sourire à la sortie de l'épreuve.
Là, dans la salle, je regardais autour quand tout le monde a vu le sujet. Il paraissait vraiment super simple. Pour être honnête, j'étais à deux doigts de célébrer, danser dans la salle de classe, parce que le sujet sur la technique... Quelque chose qu'on avait déjà fait en plus en début d'année, et ça a été vraiment genre très très simple.
Alors le sujet était « Notre avenir dépend-il de la technique ?» et voici ce qu'ont répondu Abdelrahman et Elliot.
En fait, on n'avait pas vraiment trop d'avenir sans la technique, parce que la technique, elle nous permettait de nous développer, et c'est grâce à elle qu'on évolue.
J'ai parlé du fait que ouais, si on continue à utiliser la technique comme ça, avec l'arme nucléaire, avec toutes les machines qui polluent et tout, c'est vraiment n'importe quoi.
Mais la plupart des lycéens ont choisi l'autre sujet de dissertation. Nata et Jessica, la vérité est-elle toujours convaincante ?
La vérité, elle n'est pas toujours convaincante. Bah, chacun a sa propre vérité à dire. Oui, parce que c'est une idée un peu trop extrême de dire que la vérité, elle est convaincante. Ça veut dire qu'il n'y a pas la place au doute. Alors que on est dans une société où maintenant on doute de plus en plus de tout. Mais la troisième partie aussi, si on n'avait pas les mêmes vérités, et ben ça pouvait engendrer des guerres, par exemple.
Certains élèves ont déjà soumis leur sujet à ChatGPT en sortant pour vérifier s'ils avaient trouvé le bon plan, histoire de se rassurer.
Merci Sonia Princé, en direct avec les moyens techniques de Nicolas Mathias. Pour détendre tout le monde, je vous donne le taux de réussite de l'an dernier. 91,2% dans les trois voies, c'était même 95,9% en voie générale. Alors, les élèves soumettent leur sujet à la sagacité de ChatGPT. Nous, on a choisi Martin Legros. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Ces questions soumises à nos élèves nous interrogent tous. J'en prends une. Notre avenir dépend-il de la technique ? C'était très simple à 17 élèves. Moi aussi, ça me paraît très simple. Bah oui, évidemment que notre avenir dépend de la technique.
Alors, comme vous le savez, la philosophie, c'est aussi problématisé. Notre avenir dépend-il de la technique ? Oui, factuellement, notre avenir dépend de la technique. Les inventions techniques n'ont cessé, du feu à l'électricité jusqu'à la pilule contraceptive, à modifier notre avenir. Mais la question de la dépendance méritait d'être interrogée. Qu'est-ce qui dépend de la technique ? Est-ce que notre vie sur Terre dépend de la technique ? C'est pas sûr. Est-ce que notre avenir, au sens de, en tant qu'existant de l'humanité, dépend de la technique ? C'est peut-être, c'est ça qu'il fallait interroger.
Ah bah la question nucléaire interroge notre avenir
physique justement, sur la Terre. Il était peut-être question de problématiser un peu la technique. La technique moderne se distingue de la technique ancienne, précisément, parce qu'elle a pris en charge, non seulement elle a pris en charge la nature, elle a gouverné la matière, maîtrisé, mais elle est devenue une force naturelle quasiment. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène. L'humanité est devenue une force géologique. Et dans ce cas-là, la distinction classique qu'on faisait entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous bouge. Michel Serres, le philosophe contemporain qu'on aurait pu citer, disait « La nouveauté de notre temps, c'est qu'on en vient à dépendre de ce qui ne dépend pas, on en vient à dépendre de ce qui dépend de nous, comme si cela ne dépendait pas de nous. » Voyez les réseaux sociaux. Nous avons créé les réseaux sociaux. C'est un artifice qu'on a produit. Nous en venons à dépendre comme si c'était une logique qui s'emparait de nous et qui va déterminer notre avenir. Voilà la manière dont on pouvait problématiser cette question.
Idem pour la question posée en filière technologique. Avons-nous besoin d'art ? Bah, évidemment qu'on a besoin de l'art. Qui peut dire le contraire,
bien
Martin
sûr, Legros ? Bien sûr, l'intuition nous dit qu'on en a besoin. Mais qu'est-ce que c'est qu'un besoin ? Problématisons. Un besoin, c'est ce qui me permet de vivre, de survivre. À cet égard, la définition même de l'art, c'est que c'est un artifice, que c'est une invention. Et donc, ce n'est pas un besoin qui m'empêcherait de vivre. Et pourtant, on peut faire des distinctions entre les besoins naturels et nécessaires. L'art est-il un besoin naturel et nécessaire ? Ce n'est pas un besoin naturel, c'est un art, un artifice, une invention, mais c'est peut-être un besoin nécessaire pour nous, que nous puissions éprouver nos émotions, pour que nous puissions mettre à l'épreuve, nous décaler de la réalité. Et donc, en effet, il y avait nécessité de problématiser la notion de besoin après avoir défini celle d'art.
Merci d'avoir apporté ces nuances, Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Comment se changer les idées ? C'est la dernière livraison de votre magazine, ce sera le cas pour les lycéens de terminale, mais après les épreuves et après les résultats, bien évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Autre actualité de la matinée, elle nous conduit dans le département de l'Aisne, avec cet hommage national rendu ce matin aux sapeurs-pompiers volontaires du département. Maxime Prudhomme et Tanguy Mauzin, morts il y a une semaine dans l'effondrement d'un immeuble de Laon en proie aux flammes. Bonjour Ajra Mohamed.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes sur place à l'affaire commune de l'Aisne qui abrite la caserne d'origine des deux pompiers.
Les deux cercueils recouverts par un drapeau tricolore arrivent sur la place d'armes portée par les pompiers de la caserne de l'affaire, camarades de Tanguy Mauzin et Maxime Prudhomme. Dans la foule, Marie-Ange, originaire de Cambrai dans le Nord, épouse et mère de pompiers.
C'est très émouvant. On a beau dire qu'on n'est pas du même département, je veux dire, on fait tous partie de la famille des pompiers. Et ben, quand c'est arrivé, ça me fait penser à mon gamin.
Et puis il y a des anonymes venus de toute la commune de l'affaire et des villages autour.
Je suis là pour leur rendre hommage, parce qu'ils le méritent. C'est quand même malheureux de partir si jeune.
Ils sont sur tous les fronts. Ils sont aussi bien sur les feux, ils sont sur les inondations, ils sont sur les gens malades, ils sont sur tout.
Et ils n'ont pas beaucoup de reconnaissance.
La reconnaissance, elle arrive quelques minutes plus tard dans le discours de Bruno Retailleau qui salue le civisme des deux victimes.
Un civisme engagé, celui de tous ceux qui ne restent pas tapis dans la tranchée des tranquillités et qui, toutes les 7 secondes en France, montent au front des opérations, risquent leur vie pour le service des autres.
Le ministre de l'Intérieur qui remet à la fin de la cérémonie et à titre posthume la Légion d'honneur aux deux pompiers.
Vive la République et vive la France.
Alors qu'au même moment, un pompier participant à l'hommage est évacué, assommé par la chaleur et submergé par l'émotion.
Reportage Ajra Mohamed dans l'Aisne pour Inter. On y revient évidemment à partir de 13h30 avec nos invités, porte-parole des pompiers, mais aussi le maire de Laon qui sera en direct avec nous. À Metz, le raid est intervenu la nuit dernière dans un appartement du centre-ville. Échange de tir avec un forcené qui est mort. Un policier a été blessé dans cette intervention. Cet homme avait été vu hier soir en train de menacer un passant avec une arme. Selon le maire de la ville, François Grosdidier, plusieurs armes de poing et d'épaule ont été retrouvées à son domicile. De part et d'autre, les images sont les mêmes. Des immeubles éventrés, des victimes civiles et des villes, Tel Aviv ou Téhéran, qui pour la première fois depuis bien longtemps voient les missiles et les bombes s'écraser. C'est pour Israël la découverte que le dôme de fer, ce système censé intercepter les attaques aériennes ennemies, est perméable. On va y venir dans un instant. D'abord, écoutons ces habitants. 24 morts depuis vendredi en Israël. C'est le bilan fait ce matin par le bureau du Premier ministre israélien. Notre envoyé spécial Alice Moreno s'est rendu à Petah Tikva, près de Tel Aviv.
Le missile a frappé directement une tour d'habitation. Raïm vit au 20e et dernier étage du bâtiment.
Il y a eu une grosse explosion, tout a tremblé et nous avons attendu jusqu'à ce que l'armée vienne nous évacuer de l'appartement.
Quelques étages plus bas, des appartements sont éventrés. Raïm connaissait les habitants. 5 d'entre eux sont morts.
J'en connaissais 2 d'entre eux. Et pour 2 autres, je sais qu'ils ne louaient l'appartement qu'une semaine par mois. Je suis très triste de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer.
Les fenêtres des tours voisines ont volé en éclats. Yaker est venu voir sa mère, habitante d'un immeuble situé à 200 mètres de là.
Je suis venu voir si elle allait bien et constater les dégâts chez elle, qui sont très minimes, grâce à Dieu. Elle est sous le choc, bien sûr. Elle a eu très peur. L'explosion était si forte.
Beaucoup de voisins, encore sous le choc, sont venus constater les dégâts sur place.
C'est difficile. C'est comme une roulette qui tourne et chacun attend si ça tombe chez lui.
Malgré le bilan humain et matériel, les habitants de cette banlieue chic de Tel Aviv soutiennent en grande majorité la guerre contre l'Iran.
Bonjour Eric Bigala.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre spécialiste défense. Ces dernières heures, plusieurs de ces missiles tirés par l'Iran ont touché le sol israélien. Jusqu'ici, ils étaient quasiment tous interceptés. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe tout simplement qu'en matière d'armement, aucun système n'est infaillible à 100%. Alors on connaît bien le dôme de fer, mais il n'est qu'une des constituantes du bouclier antimissile israélien. Utilisé contre les roquettes de courte portée et de faible vitesse, celles du Hamas ou du Hezbollah. Réaction ultra rapide du système, précision, efficacité maximale. Il touche 90% de ses cibles. Les 10% restants, on les laisse passer tout simplement parce qu'ils ne visent pas d'agglomération. Uh-huh. Il y a d'abord, cette première couche cible. Mais il y a aussi deux autres couches de défense antimissile. Il y a d'abord les missiles antimissiles Arrow 2 et David Sling, susceptibles, eux, d'intercepter des missiles à longue portée et à haute altitude. Précisément, ceux qu'envoie l'Iran. Les missiles iraniens sont puissants, lourdement chargés jusqu'à 1,5 tonne d'explosifs, et c'est sur ce type d'engin que comptent les Iraniens pour saturer les défenses israéliennes. Intercepter une salve de 10 ou 20 de ces engins est toujours possible. Avec une salve plus importante, on peut être sûr que certains passeront au travers des mailles du filet. Enfin, il y a la dernière couche, les missiles antimissiles Arrow 3, conçus pour intercepter dans l'espace les missiles porteurs de charges nucléaires durant leur course exo-atmosphérique, histoire justement que l'interception elle-même ne produise pas de retombées radioactives. Les Israéliens l'ont déjà utilisé avec succès contre des missiles outils et aussi contre ceux des Iraniens ces deux derniers jours.
Merci Eric Bigala. En réaction à ces bombardements iraniens, le ministre de la Défense israélien avertit que les habitants de Téhéran paieront le prix, c'est son expression, paieront le prix de ces frappes sur les civils israéliens. Fin de citation. Dernier bilan établi par le ministère iranien de la Santé, 224 morts en Iran, dont 90% de civils selon ce ministère. Et ce matin, les médias iraniens rapportent qu'un hôpital de l'ouest du pays a subi d'importants dégâts après une attaque israélienne contre un site situé à proximité. Alors les témoignages d'Iraniens sont difficiles à recueillir. Je vous propose d'écouter celui de Farhad. Il habite justement dans l'ouest de l'Iran, à Kermanshah, une ville touchée par Israël ces derniers jours. Il redoute une guerre sans fin.
Bien sûr, j'ai peur, mais c'est pas le genre de peur où on crie. C'est le genre de peur qui est calme, qui est sourde. Le genre qui te suit partout, du matin jusqu'au soir. Le genre qui te fait lever les yeux vers le ciel avant de sortir de chez toi, qui rend chaque moment plus lourd. Mais malgré tout ça, les gens essayent de continuer leur vie. Les écoles sont ouvertes, les magasins sont ouverts, les bus roulent. Mais dans toute la tête, il y a cette question qui tourne. Jusqu'à quand ? On ne sait pas ce qui nous attend et c'est ça le plus dur. Ce n'est pas juste les bombes, c'est l'après. Est-ce que ça va recommencer ? Est-ce qu'on aura encore de l'essence dans quelques jours ? Est-ce qu'un autre pays va s'en mêler ? Et cette peur, elle s'infiltre partout. Elle te change, elle te rend méfiant, tendu. Et je sais que je ne suis pas le seul. Tout le monde ressent que ça pourrait devenir encore pire.
Farad qui a souhaité témoigner mais sans donner son vrai prénom. Il était au téléphone de Franck Madvon ce matin à Téhéran. Le grand bazar, le plus grand du pays, a dû fermer ses portes pendant que les frappes israéliennes se poursuivaient. Marie-Pierre Véraud, vous êtes en direct d'Istanbul, vous y êtes notre correspondante. Marie-Pierre, quand on regarde la carte d'Iran et les sites visés par Israël avec les informations dont vous disposez, est-ce qu'on a une idée de ce que cherchent les Israéliens ?
Écoutez, le but de guerre affichée, c'est d'empêcher l'Iran de se doter de la bombe nucléaire. Le régime des Mollahs était sur le point de l'acquérir, selon le premier ministre israélien. Et c'est vrai que dans les premières heures de l'offensive, la centrale d'enrichissement d'uranium de Natanz, notamment, a été ciblée à plusieurs reprises. Israël dit l'avoir détruite, ce que ne confirme pas l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une autre centrale, celle d'Ispahan, a également été touchée. Mais Israël a aussi, dans le même temps et peut-être surtout cibler le plus haut commandement de l'armée et des gardiens de la révolution, et pilonne particulièrement depuis ce week-end la capitale, Téhéran et ses lieux de pouvoir, le ministère de la Défense, le siège de la police et au-delà de ses cibles militaires, des bâtiments du gouvernement et des infrastructures énergétiques, dans une stratégie qui semble aussi viser le régime iranien. Certains responsables israéliens ont d'ailleurs appelé la population à se soulever contre l'ayatollah Khamenei. Peuvent-ils être entendus ? Pour l'heure, les Iraniens sont tétanisés, paniqués par la violence de ces frappes qui ravivent le spectre des heures les plus noires de la guerre Iran-Irak. C'était dans les années 80.
Merci Marie-Pierre Véraud en direct d'Istanbul. À l'instant, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président russe Vladimir Poutine appellent tous deux à la cessation immédiate des hostilités. Et ce conflit a des répercussions en France. Au salon aéronautique du Bourget, qui a ouvert ses portes ce matin, le gouvernement français vient d'ordonner de condamner l'accès au stand de 5 industriels israéliens de l'armement qui participent à ce salon. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Vous êtes sur place pour Inter. Luc, ces stands sont bien fermés ?
Oui, exactement. Je suis juste à côté. On voit de grandes bâches noires recouvrir les murs de ces stands. Impossible d'y entrer. En revanche, celui du ministère israélien de la Défense n'est pas concerné. Et il y a de l'agitation devant. Les allers-retours de représentants de l'ambassade et du gouvernement de l'État hébreu sont incessants. Et il y a de leur côté de la stupéfaction après cette décision. Certains expliquent avoir reçu un mail hier en fin de journée pour les prévenir et découvert le stand bâché ce matin en arrivant. Ils dénoncent de la discrimination, rappelant que des entreprises du monde entier sont présentes et aussi que beaucoup d'argent ont été dépensés pour être exposés ici. Cette affaire prend une tournure même diplomatique, car le gouverneur américain de l'État de Virginie, un républicain, est venu à la rencontre de certains dirigeants des sociétés concernées pour leur faire part de sa surprise et rappeler son soutien indéfectible à Israël.
Comment le gouvernement français se justifie-t-il, Luc ?
Eh bien, d'après Matignon, un accord avait été passé avec l'ambassade d'Israël sur ce point précis, interdiction d'exposer des armes offensives. 5 entreprises, selon le gouvernement français, n'ont pas respecté la consigne et sont donc fermées temporairement. S'ils se mettent en conformité, les stands seront débâchés.
Merci Luc Chemla, en direct du Bourget. Réaction à l'instant du président israélien qui dénonce une décision scandaleuse après la fermeture de ses stands israéliens au salon du Bourget. Un salon très militaire, on l'a compris, mais qui se veut aussi la vitrine des progrès de l'aéronautique pour se décarboner. Avec par exemple la présentation de ce prototype inédit, le premier avion à hydrogène imaginé par la start-up française Blue Spirit Aero. Alors il ne vole pas encore, c'est un petit peu problématique pour un avion. Notre reporter Gabin Boquet l'a découvert en avant-première au Mans.
Comme un super-héros tout droit sorti du futur ou d'un film de science-fiction, le premier avion à hydrogène fait son arrivée en grande pompe sur le tarmac.
Mesdames, messieurs, le Dragonfly de Blue Spirit Aero.
L'avion léger de 4 places d'une autonomie de 700 km, ravitaillé en quelques minutes à une station hydrogène mobile, ne vole pas encore, mais il roule, présenté par l'expert en technologie Laurent Meillot.
Vous avez vu que sous les ailes, il y a des nacelles, c'est ce qu'on appelle des pods, au nombre de 12. Dans chaque nacelle, il y a en fait un moteur électrique, une pile à combustible et une bouteille d'hydrogène.
Cette nouvelle technologie est une prouesse sur le plan écologique, selon son créateur Olivier Savin. D'abord, car l'hydrogène n'émet pas de CO2 dans l'air, seulement de la vapeur d'eau.
L'hydrogène, c'est propre. La seule chose qui sort, c'est de l'électricité.
et de l'eau. H2 d'un côté, O2 de l'autre, ça se mélange, ça fait de l'eau. Donc c'est totalement vertueux vis-à-vis de l'environnement. Il n'y a rien de sale dans ce qui sort. Pas de CO2, pas de particules, pas de NOx, rien du tout.
Mais aussi parce que le Dragonfly ne fait aucun bruit.
L'avion sera totalement silencieux. Il suffit de mettre un silencieux comme sur les mobilettes ou sur les pistolets et on a un écoulement qui est totalement silencieux. Nuisance sonore, nulle. Nuisance chimique, nulle. Voilà en quoi il est révolutionnaire.
C'est une première étape vers une aviation plus durable. Le premier vol d'essai du Dragonfly est prévu début 2026.
Voilà, reste à le faire décoller d'ici 6 mois.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Les grands patrons ont aussi leur mercato. Avec ce coup de tonnerre la nuit dernière, le départ du directeur général de Renault, l'italien Luca De Meo, 58 ans, qui va rejoindre le numéro 2 mondial du luxe, le français Kering, propriété de la famille Pinault. C'est une information du journal Le Figaro. Kering, un groupe en difficulté. On va voir ça dans un instant. D'abord, parlons de Renault. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Après 5 ans à son poste, le départ de Luca De Meo a surpris tous les salariés ce matin.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Des usines au bureau jusqu'au siège, un salarié me disait ce matin son incompréhension la plus totale. Un autre proche de la direction assure qu'il ne s'y attendait, mais alors vraiment pas, étonné du timing, alors que Luca De Meo avait été reconduit pour 4 ans l'an dernier, qu'il venait de lancer son nouveau plan stratégique Futurama. On tombe de l'armoire à Boulogne, où les décisions sont prises habituellement. Certains collaborateurs les plus haut placés ont été informés du départ début de semaine dernière, et le sentiment qui domine chez nombre de salariés me confie l'un d'eux, c'est que Luca De Meo quitte le navire purement et simplement. Partir maintenant, qui plus est pour le luxe, dans un moment des plus compliqués pour l'automobile, c'est envoyer le pire des signaux, donné comme indicateur qu'il faudrait à tout prix quitter le secteur, estime un ingénieur de Renault, amer et qui déplore, je cite, que Luca De Meo ait d'abord pensé à lui pour rester poli plutôt qu'à l'entreprise.
Inquiétude des salariés, donc inquiétude des investisseurs également. Renault dévisse de 6% ce matin à la Bourse de Paris. Quand l'action Kering, elle, bondit de 6%. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Kering se porte mal ?
Oui, le grand groupe de luxe français est plombé par la mauvaise santé économique de sa marque phare, Gucci, dont les ventes sont en forte baisse depuis 2 ans. Moins 14% au premier trimestre 2025, après une chute de 62% du bénéfice net. La marque a bien essayé de se renouveler, mais semble passer de mode. Gucci, victime de la rude concurrence du luxe. Quant au groupe Kering, eh bien son action a perdu plus de 20% de sa valeur. Mais alors, me direz-vous, pourquoi Luca De Meo irait-il se lancer dans cette aventure incertaine alors qu'il a réussi à redresser Renault avec succès et qu'il a fait toute sa carrière dans l'industrie automobile? Eh bien justement, selon Vincent de la Vessière, président du cabinet d'analyse V+V, le dirigeant italien de 58 ans a beaucoup à apporter à la tête de Kering.
Luca De Meo est arrivé au moment précis où le groupe Renault a failli disparaître. Il a renouvelé la gamme de Renault. Il faut en fait quelqu'un qui ait une main de fer dans un grand velours. Luca De Meo a cette réputation d'être un très grand organisateur, un homme de process. Il y a une industrie du luxe comme il y a une industrie automobile.
Et pour Luca De Meo, il s'agirait de quitter Renault à son apogée pour aller relever un nouveau défi.
Merci Mariam El Kurdi et Maxime Debs pour ces explications. Là, c'est le Mercato Télé. Anne-Sophie Lapix, écartée de la présentation du 20h de France 2 à la rentrée prochaine, va rejoindre le groupe RTL M6. C'est un pays qui ne connaît pas le meurtre, ou presque, moins de 2 par an en moyenne. L'Islande, eh bien une touriste française d'une 60aine d'années y a été arrêtée samedi. Bonjour Sarah Mansoura.
Bonjour.
La police la soupçonne d'avoir tué son époux et leur fille alors qu'ils étaient en vacances.
Oui, c'est une femme d'un peu moins de 60 ans, nous confirme la police métropolitaine de Reykjavik. Elle est en détention provisoire depuis 48 heures environ. Samedi matin, la police est contactée par un membre du personnel de cet hôtel assez luxueux du centre-ville de la capitale islandaise. Quand les agents arrivent dans une des chambres du 4e étage, ils découvrent 2 corps, ceux d'un homme d'une 60aine d'années, le mari, et leur fille d'une 30aine d'années. Tous les 3 voyageaient ensemble et avaient réservé 6 nuits. Le drame a eu lieu durant la dernière nuit du séjour. Les 2 victimes présentaient des plaies à l'arme blanche, dont des coups de couteau, mais la police ne souhaite pas confirmer si des armes ont été trouvées sur place. Cette Française, elle aussi blessée, est en tout cas traitée comme suspecte de ce double homicide. Elle va rester en détention jusqu'à vendredi, date à laquelle un juge va déterminer si cette détention sera prolongée ou non. Entre-temps, elle a déjà été interrogée par les enquêteurs. On ne sait pas si elle a coopéré tempérée ou avouée, mais elle sera très probablement une nouvelle fois auditionnée ces prochains jours.
Sarah Mansoura, un procès hors norme a débuté ce matin à Lyon, celui d'une fuite massive de données chez le géant de l'intérim Adecco. C'était en 2022. Les données personnelles de plus de 70 000 personnes s'étaient retrouvées dans la nature. 2400 victimes se sont constituées partie civile et 14 prévenus sont jugés, notamment pour escroquerie et blanchiment. Bonjour Nolwenn Lejeune.
Bonjour.
Alors, à l'origine de cette fuite, il y a un stagiaire d'Adecco devenu CDD, mais qui a vendu ses infos à des cybercriminels très aguerris.
Oui, à leur tête, un jeune homme de 22 ans, originaire de l'Allier, considéré comme le cerveau du groupe. C'est le seul à être détenu. Il n'a pas encore 18 ans quand il débute sa carrière de cyber-escroc, foisonnant d'idées d'arnaque, doté de capacités intellectuelles élevées. Il s'entoure d'une bande hétéroclite. Certains sont ses amis dans la vraie vie, d'autres sont recrutés sur Internet, certains inconnus de la justice, d'autres au casier judiciaire chargé. Des hackers, parfois très jeunes, notamment un lycéen. Ils agissent sur des points précis, campagnes de phishing, spamming, création de faux sites Internet ou encore siphonnage de bases de données. Les discussions se font sous pseudo sur des canaux cryptés. Le principal prévenu continue même à lancer des arnaques alors qu'il est en détention. La chronologie de ces projets cybercriminels est édifiante, relèvent les enquêteurs. Elle illustre une nouvelle forme de délinquance dématérialisée mais aux effets bien concrets et susceptibles de toucher tout un chacun. Ce sont notamment les 2400 parties civiles à ce procès.
Nolwenn Lejeune, cela fait penser à la chanson de Brassens. Heureux qui comme Ulysse
a fait un beau voyage. Heureux qui comme Ulysse a vu son paysage.
Brassens, le Sétois, n'aurait pas renié cette histoire. Celle de Doris Lacombe, retraitée de 82 ans. Elle s'est mise à la moto il y a 2 ans. Eh bien, elle vient de parcourir l'Afrique. 10 pays traversés, 19 000 kilomètres. Et ce week-end, elle a bouclé ce long voyage avec une dernière étape entre Moggio, pas très loin de Sète, et Castres, dans le Tarn, où elle a sa maison. Tout cela sous les yeux d'Alexandra Lagarde.
Sur le bord de la route, une vingtaine de motards font une haie d'honneur pour Doris Lacombe. Tous ces motards vont l'accompagner entre Moggio et Castres dans le Tarn, dernière étape d'un long périple de 7 mois à travers l'Afrique.
C'est complètement exceptionnel, plein d'émotions, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de rire. C'est formidable, il y a des gens qui sont venus très loin de toute la France pour venir, enfin c'est fou.
Fou comme son périple de plus de 19 000 km dans 10 pays africains, décidé un petit peu sur un coup de tête, Doris raconte.
Oh, c'est sur un pari avec un copain, parce que avant je faisais des treks, et vu l'âge passant, je me suis dit, il faut aller plus vite. Donc un copain il me dit, prends une mobylette. Je lui dis, mais c'est ridicule une mobylette, je vais prendre une moto.
C'est donc comme ça qu'elle a enfourché une moto pour la première fois à l'âge de 80 ans.
Très dur, parce que moi j'étais pas une motard, je savais pas conduire. Puis maintenant tout va bien, j'ai appris à rouler, ça commence à aller nettement mieux.
Avant ça, Doris a eu 1000 vies, elle a été danseuse étoile dans le ballet de Strasbourg, bergère, travailleuse sociale avec des personnes handicapées. Un parcours qui force le respect, expliquent les différents motards présents ce jour-là.
C'est une femme extraordinaire et c'est vraiment un exploit.
C'est énorme.
Et Doris ne compte pas en rester là. Elle prévoit d'ailleurs déjà de retourner vivre au Maroc ces prochains mois.
La femme à la moto, reportage ici héros. Elle s'appelle Doris Lacombe, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, les pompiers et les interventions à risque dans les centres anciens après la mort de 2 dealers il y a une semaine à Landes-en-Laine. Comment limiter les risques? Ces centres-villes, parfois en mauvais état, sont-ils des pièges en cas d'incendie? 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages, notamment si vous êtes pompier. 13h45, notre feuilleton, nous sommes toute cette semaine avec une tatoueuse thérapeutique qui répare les corps et les âmes. 13h50, c'est la France. Et c'est une chanson. Mathieu Avanzi, notre linguiste, et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Mathieu, inspiré par les mots du bac.
On révise un vocabulaire un peu particulier aujourd'hui, celui de la fraude aux examens. Parce qu'au bac aussi, entre 2 antisèches et un coup d'œil discret sur le voisin, vous allez voir en français, même la triche a son accent.
Nos jeunes seraient tentés par la fraude. Alors là, je ne vois pas du tout où vous voulez en venir, cher Mathieu. Avec vous, Frédéric, une humoriste.
Elle est aussi animatrice et comédienne. Il s'agit de Nicole Ferroni, qui tient le premier rôle de la série Asperger, dont la deuxième saison sera visible à partir de demain sur OCS. C'est Ciné Plus. Et avec elle, c'est un titre de la chanteuse suédoise Robin que nous écouterons tout en parlant de Monique. Monique, c'est le petit chien de Nicole Ferroni.
Très important, évidemment. Merci à tous les deux.
Capital.
Et à tout à l'heure.
On en parle.
Berlin.
Pourquoi passer à la mobilité électrique à l'approche des vacances d'été? On en parle avec Camille, conseillère EDF. Bonjour.
Bonjour. Eh bien, parce que choisir l'électrique, c'est vraiment faire des économies. En fait, la recharge de votre voiture électrique vous coûtera 4 fois moins cher que de faire un plein d'essence. Et c'est quand même plus agréable de le faire depuis chez vous plutôt que d'aller à la station de service.
Ça, c'est sûr. Merci, Camille.
Sourcer et EDF, mars 2025. Plus d'infos sur edf.fr/mobilité-électrique. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Le maître du polar revient avec un nouveau héros. Découvrez Sous les eaux d'Avalon de Michael Connelly. Sur l'île de Santa Catalina, l'inspecteur Stilwell pensait couler des jours tranquilles. Mais un cadavre retrouvé dans le port va tout faire basculer. Nouveau personnage, nouvelle enquête, Sous les eaux d'Avalon, de Michael Connelly, aux éditions Kalman-Lévy.
France Inter, partenaire des Francopholies de La Rochelle. Plus de 80 concerts et rencontres musicales du 9 au 14 juillet 2025 avec Clara Luciani, R, Lamomali, SDM, IAM, Philippe Catherine, Solane, Cassius, Dali et bien d'autres. Les Francopholies de La Rochelle, un événement France Télévisions et France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est une journée estivale.
Oui, les hautes pressions s'installent sur le pays, assurant un temps calme et bien ensoleillé. Alors, le soleil brille largement du sud de la Bretagne et du bassin parisien vers l'ouest du massif central et le sud-ouest. Soleil aussi sur les régions méditerranéennes avec du vent jusqu'à 60 km à l'heure et même 80 pour le Mistral. Des nuages circulent tout de même du nord de la Bretagne vers les Hauts-de-France, du Grand Est vers la Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Un peu plus nombreux d'ailleurs sur le Jura et sur le nord des Alpes. Sur le sud des Alpes et l'est de la Corse, c'est parfois instable cet après-midi avec un risque d'averses et d'orages. Les températures progressent à nouveau par l'ouest cet après-midi. La chaleur va s'accentuer au fil des jours sous le soleil. Ça deviendra même écrasant en fin de semaine, hein, une moyenne de 32 degrés au nord samedi, 34 au sud. En attendant, cet après-midi, comptez 18 à 22 degrés près de la Manche, 23 à 28 sur bon nombre de régions et jusqu'à 32 à 33 autour de la Méditerranée.
Elodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Maxime Prudhomme et Tanguy Mauzin étaient pompiers volontaires dans l'Aisne. Ils avaient 23 et 22 ans. Ils sont morts lundi dernier en combattant un incendie dans le centre-ville de Laon. Le vieil immeuble dans lequel ils intervenaient s'est effondré. Un hommage national leur a été rendu ce matin chez eux dans la commune de Laferre, dans le département de l'Aisne. Et nous y étions il y a quelques minutes. Mais c'est aussi un drame qui interroge sur les risques que prennent les pompiers lors de ces interventions, particulièrement dans des centres anciens comme celui de Laon. Nous allons en parler avec nos invités, avec Éric Brocardi. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, porte-parole de la Fédération nationale des pompiers de France. Éric Delay est là aussi. Bonjour Monsieur Delay.
Bonjour.
Vous êtes le maire Horizon de Laon. Vous avez participé ce matin à l'hommage rendu aux deux pompiers à l'affaire et vous organisez un autre hommage cet après-midi dans votre commune. On va en parler. 01 45 24 7000 pour vos questions. Si vous êtes pompier vous-même par exemple, vous passez également via l'application Radio France. Un mot d'abord avant de venir au risque qu'encourent les pompiers. Un mot sur l'hommage de ce matin, Éric Brocardi, hommage très attendu par les milliers de pompiers de notre pays, peut-être plus que d'habitude.
Presque plus que d'habitude, évidemment, mais vous savez, quand on a deux collègues qui disparaissent, il manque déjà évidemment à la famille, il manque à nos effectifs, il manque à la caserne, il manque au vivier que sont les territoires aujourd'hui, donc il est effectivement aujourd'hui un sujet d'émotion, et un sujet aussi empreint de... pas de colère, mais une nécessité qu'il y ait une meilleure reconnaissance encore et de considération. C'est extrêmement important de le dire aussi, parce que lorsqu'on a affaire encore à des jeunes qui aujourd'hui servent la nation, le territoire et la protection, on s'attend effectivement à ce qui a été très bien fait sur leur commune. Mais au-delà de ça, c'est dans le cadre général, on va dire d'une certaine appétence de notre population, de nos pouvoirs publics sur le sujet justement de toutes ces celles et ceux qui s'engagent au quotidien.
Vous m'avez dit en préparant cette émission, Éric Brocardi, les pompiers ont trouvé que les réactions publiques nationales après la mort de deux des leurs, que ces réactions n'étaient pas à la hauteur du drame.
On attendait effectivement beaucoup plus. Ça s'est malheureusement, on va dire, conjoint avec le décès d'une malheureuse surveillante à ce moment-là, dans un collège, face à cette conjoncture-là très dramatique.
La mort de Mélanie à nos jours la semaine dernière.
Exactement, a fait qu'on a visiblement un petit peu trop vite oublié nos deux collègues en instantané sur le sujet de ce qu'ils avaient eux aussi porté en termes de protection vis-à-vis de la République vis-à-vis des concitoyens, parce que c'est aussi cela aujourd'hui que l'on tient à dire au titre de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, c'est-à-dire que toutes celles et ceux qui aujourd'hui s'engagent au quotidien, ne serait-ce que pour la protection, pour le cadrage, pour l'éducation, ont la nécessité aujourd'hui d'être considérés tous au même niveau, parce que c'est le dernier rempart, on va dire, du juste valeur qu'ils portent aux couleurs de la République.
Avant de venir à la spécificité de cette intervention, Éric Delay, est-ce que vous avez vu, vous, eu le même sentiment, Alain?
Bah moi j'étais, enfin on était dans, évidemment dans l'émotion et aux côtés des pompiers pendant le combat, et nombreux ont été les témoignages, notamment de collègues maires d'un peu partout en France pour soutenir les pompiers et soutenir la ville face à ce drame absolu que nous avons connu. J'ai reçu énormément de témoignages et d'hommages tout au long de la semaine. Voilà, donc en tout cas je peux vous dire que tous les collègues maires ont été extrêmement touchés par ce qui s'est passé dans notre commune.
Commentaire de Marie sur l'application Radio France. Je voudrais dire un grand merci à tous les pompiers de France. Nous avons beaucoup de chance de les avoir. Ils sont dévoués, toujours à notre service. Je trouve que nous ne sommes pas trop reconnaissants. C'est dommage, dit-elle. Ces deux pompiers, Eric Brocardi, étaient volontaires. Oui. Moi, je me suis interrogé sur le fait que des pompiers volontaires soient en première ligne dans un incendie comme celui-là qui paraît extrêmement complexe et extrêmement violent. Pardonnez peut-être ma méconnaissance.
Oui, je pense qu'effectivement, vous voyez, vous répondez automatiquement à la première des interrogations qui se faisait en termes de reconnaissance et de considération. Pour nous, tout est normal. Tout est un sujet aujourd'hui, on va dire, de placement, de formation, d'ancrage territorial lié à un engagement volontaire, parce qu'aujourd'hui, c'est 80% de nos effectifs. Sans eux et sans effectivement avec la mixité des sapeurs-pompiers professionnels dans les grandes agglomérations, nous ne pourrons pas avoir cette réponse opérationnelle et ce maillage territorial très fort pour protéger, secourir nos concitoyens. Donc, il est évident qu'aujourd'hui, ce qui pourrait vous sembler être étonnant...
Moi, je me dis peut-être des pompiers plus aguerris seraient envoyés sur un
feu. Ne doit plus être un effet de surprise. Ils n'ont pas à être plus aguerris ou autre. Ils sont là parce qu'ils ont les unités de valeur, ils sont là parce qu'ils ont la condition physique, ils ont la condition médicale, parce qu'ils ont subi la formation adaptée, parce qu'ils ont les équipements adaptés. Et donc, forcément, ce sont des jeunes qui, à un moment donné, ont progressé dans le cadre de leur formation, ont progressé dans le cadre de leurs unités de valeur et qui nécessairement se retrouvent effectivement en première ligne. Mais ce n'est pas une découverte, c'est comme au niveau des feux de forêt que l'on espère très calme cette saison, mais qui vont à un moment donné propulser tous ces jeunes engagés sur le front, on va dire, du dérèglement climatique par rapport à ces sujets que l'on attend pendant la période estivale.
Éric Delay, pour en venir aux circonstances de ce drame, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel cadre il est intervenu et dans quel cadre intervenaient les pompiers? C'est le centre historique de Laon et c'est un territoire très particulier.
Oui, on est vraiment au cœur de la cité médiévale de Laon, cette cité historique, dans un îlot d'immeubles extrêmement dense, avec du bâti ancien, des charpentes en bois, des parquets. 20h40, je suis appelé pour des fumées qui se dégagent d'un immeuble de la rue commerçante de ce centre historique. Nous arrivons très vite avec les pompiers et très très rapidement, on va voir l'immeuble s'embraser, le feu est parti au premier étage. C'est un immeuble qui était occupé par une personne âgée d'environ 88 ans. Uh-huh. Cette personne est sortie tout de suite par des commerçants qui travaillent à côté. Les pompiers arrivent et très rapidement, dans les minutes qui vont suivre, le premier étage va s'embraser, le deuxième également. Tanguy, Maxime vont effectivement entrer en colonne pour attaquer le feu de l'intérieur, hein, tandis qu'il y avait une lance qui était déployée à l'extérieur. Le rez-de-chaussée n'était pas en feu. Et à un moment donné, le plancher du premier étage va s'effondrer sur eux.
Certains riverains qui ont été interrogés après l'incendie ont expliqué que parmi les immeubles du centre ancien, certains étaient plus ou moins entretenus, qu'il pouvait y avoir un risque d'effondrement bien connu à Laon. L'état du bâti, est-ce que ça peut être aussi un élément d'explication ?
Je ne pense pas dans ces circonstances précises, mais effectivement, c'est une vraie question dans nos centres anciens, avec des immeubles effectivement vieillissants, des propriétaires qui les entretiennent peu ou pas pour certains. Ça ne facilite évidemment pas le travail des pompiers. Ces îlots étant extrêmement denses, il y a aucune possibilité de les pénétrer dans la profondeur par des cours intérieurs, par des passages. Donc ça rend les opérations, et dans des ruelles étroites, ça rend les opérations évidemment très 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 complexes. Alors c'est vraiment une préoccupation effectivement qu'on peut avoir en cœur de ville. Hein, la
mais
ville...
ça vaut chez vous, Éric Delay, mais ça vaut dans énormément de villes de France.
Bien évidemment, dans les cœurs historiques des villes, on est tous confrontés aux mêmes difficultés.
Éric Brocardi, comment se préparent les pompiers à ce type d'intervention très particulière ?
Nous avons régulièrement dans les casernes des manœuvres qui sont effectuées sur, on va dire, un échéancier qui se veut une programmation en termes de formation et de ce qu'on appelle de formation aussi de maintien des acquis qui permettent justement, en cas, on va dire, de difficulté sur un territoire spécifique, de pouvoir s'y entraîner et de pouvoir aussi également de comprendre les enjeux des territoires et notamment sur ces spécificités des vieilles villes. Pour être chef de centre pendant 12 ans à Menton, quand on sait qu'on a la vieille ville de Roquebrune comme la vieille ville de Menton qui sont effectivement dans le même état de configuration que ce qu'on peut rencontrer dans d'autres dans des grandes cités de vieilles villes, il faut savoir qu'effectivement nous sommes dans la capacité à pouvoir adapter les moyens en conséquence, avoir des véhicules de plus petit gabarit comme à un moment donné une manœuvre spécifique par rapport à ces zones-là. Donc ça fait partie du cadre d'entraînement. Nous avons des services prévision, des services prévention, des services opération dans chaque SDIS qui font qu'à un moment donné, lorsqu'il y a un schéma départemental de couverture des risques qui est étendu justement sur ces particularités-là, doivent permettre une réponse à ce type de sinistre-là.
Et on est encore plus sensible à la question de l'effondrement. Avant d'envoyer des hommes ou des femmes, on se dit, bon, est-ce qu'on les envoie parce qu'il y a peut-être, dans ces conditions-là, un risque d'effondrement ?
Dans le déroulé de l'intervention, bien entendu que ça fait partie d'un des points. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, sur ce type de commandes d'habitation, vous avez à l'intérieur une majorité de construction et tout ce qui est fait en bois et de matière en bois avec des différents parquets, planchers, qui font qu'à un moment donné, il va y avoir un risque particulier. Donc il est évident que même si on demande dans ce cadre-là de progresser sur le bord des planchers pour éviter un effondrement au milieu, même si toutes les précautions ont été prises, même si ils ont évolué à deux en termes de binôme, et c'est extrêmement important de le dire aussi, même s'ils étaient équipés en la matière, l'accident s'est produit, le pouvoir calorifique de ce sinistre-là, puisqu'on parle d'une étendue de 2000 m², font qu'à un moment donné, les circonstances étaient aggravantes pour justement faciliter l'effondrement malheureux de cet établissement.
Éric Delay, votre centre-ville constitue l'un des secteurs sauvegardés les plus vastes de France. Vous vous êtes lancé dans de vastes opérations de réhabilitation, mais ça prend du temps ?
Oui, forcément, ça prend du temps et ça en prendra beaucoup. Dès que j'ai été élu maire, bien sûr, je me suis posé effectivement la question, d'autant plus qu'il y avait le programme national Cœur de Ville qui se mettait en place. Uh-huh. On a tout de suite mis en place une cellule Cœur de Ville en embauchant un architecte, chef de projet Cœur de Ville, en embauchant un chargé de mission sur les questions foncières et d'habitat, en lançant les diagnostics sur la situation du bâti en centre-ville. Et puis, dans la foulée, on a lancé une opération programmée d'amélioration de l'habitat 2021 qui mobilise énormément de financements, que ce soit de l'ANA, de la ville, de l'aglo, et puis dans le cadre
Agence nationale de l'habitat.
D'Action Logement. Donc, ce sont des centaines, des millions d'euros qui sont aujourd'hui injectés pour rénover un certain nombre d'immeubles, mais j'aurais tendance à dire que ce sont les plus faciles, qui sont rénovés par les propriétaires bailleurs ou les propriétaires occupants grâce à l'ensemble de ces aides. Mais par ailleurs, la ville a acheté un certain nombre d'immeubles. Depuis un an, sont dans 6 immeubles qui ont été rachetés par la ville. Et on va signer cet été ce qu'on appelle une concession d'aménagement, c'est-à-dire qu'on va confier à une société d'économie mixte le soin d'aller acquérir des îlots en ville haute, les îlots les plus dégradés et pour lesquels on sait que les propriétaires ne viendront plus parce que les coûts de réhabilitation seront tout à fait considérables. Il faut savoir que la ville, elle est aussi sur 3 niveaux de carrière souterraine, donc on a en plus ce risque d'effondrement.
Il y a des galeries sous le centre immeubles. Historique de Laon.
Oui, 3 niveaux de carrière souterraine sous les immeubles de la ville de Laon. Donc là, c'est un programme pour de 14 ans qui va être lancé. 14 ans, 30 millions d'euros, dont 17 millions pour, enfin 15-16 millions pour la ville de Laon, participation de la ville, pour équilibrer ses opérations, 8 à 9 millions de subventions, et puis les recettes de cession qui pourront être tirées. Mais il va falloir aller faire des démolitions, soit complètes, soit partielles, sécurisées, réhabiliter les clos couverts pour pouvoir ensuite les remettre sur le marché. Mais ce sont des opérations qui sont extrêmement complexes, extrêmement lourdes et très longues. Mais en tout cas, il y a une forte mobilisation pour s'attaquer à nos centres anciens et pour y parvenir.
Brigitte nous appelle du département du Jura. Bonjour Brigitte.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, je voudrais poser la question suivante. Est-ce qu'il est vrai que les pompiers professionnels n'ont toujours pas le statut de métier à risque ?
Merci Brigitte pour cette question. Éric Brocardi.
Alors il faut savoir que depuis effectivement la loi de 2001 de modernisation de la sécurité civile, le statut en a été acté ainsi. Cela a permis derrière de sensibiliser particulièrement les services départementaux d'incendie et de secours à proposer justement des cellules d'amélioration de la qualité de vie au travail et de sécurité. Et c'est pour cela aussi que très clairement on est sur un sujet aujourd'hui de protection du sapeur-pompier dans tout son ensemble, de manière à limiter ses risques envers eux.
Éric Delay, vous organisez un deuxième hommage cet après-midi dans votre commune.
Oui, absolument, parce qu'une partie des pompiers de Lens n'ont pas pu aller à l'affaire ce matin, parce qu'ils étaient de garde, parce que la population aussi, lannoise, est très attachée à pouvoir rendre hommage à Maxime et Tanguy. Donc on aura un moment de recueillement particulier devant l'hôtel de ville et à côté, effectivement, de cet îlot sinistré, où les deux portraits de nos jeunes sapeurs-pompiers seront affichés sur la façade de l'hôtel de ville. Merci, on déposera des fleurs, on aura une minute de silence et un registre a été ouvert en mairie pour que tout le monde puisse venir exprimer sa solidarité pour les pompiers.
Et nous tenions à revenir évidemment sur ce drame dans ce 13-14 aujourd'hui. Merci Éric Delay d'avoir été en ligne avec nous depuis Lens. Merci également Éric Brocardi.
Merci à vous pour ce temps accordé à leur hommage et merci à tous.
C'était bien la moindre des choses. Porte-parole de la Fédération Nationale des Pompiers. 13h45. Une semaine dans leur vie. Nous allons suivre dans notre feuilleton toute cette semaine une tatoueuse thérapeutique. Cela fait 6 ans que Caroline Escafitte exerce chez elle, à Montpellier. Elle a choisi cette forme de tatouage pour réparer les corps abîmés après une maladie ou par un accident. Et pour ce premier épisode avec notre reporter Vanessa Descoureaux, nous la retrouvons chez elle, dans le cocon. C'est ainsi qu'elle appelle son studio de tatouage au premier étage de sa maison.
Voilà le petit cocon. J'avais un souci d'accueillir des femmes et des hommes qui avaient subi un parcours médical souvent compliqué et qui avaient besoin de se réapproprier leur corps par le tatouage. Et j'ai un studio qui est à Montpellier, que je partage avec 6 autres tatoueurs. Enfin, c'était un open space et je pouvais pas continuer à accueillir des personnes dans ce sens-là, dans la mesure où elles ont déjà vécu un cruel manque d'intimité de par leur parcours médical avec des multiples docteurs. Enfin voilà, j'avais envie de leur offrir un espace vraiment cocon, un espace qui leur est dédié, où elles se sentent en sécurité. Et du coup, c'est chez moi, donc avec une entrée indépendante, un peu comme à la maison. Je m'appelle Caroline Escafitte, j'ai 45 ans et je suis entre autres tatoueuse thérapeutique. Moi j'ai toujours aimé raconter des histoires et leur histoire elle est souvent riche, souvent dure malheureusement, mais il y a toujours un petit brin d'espoir qui est tellement beau. C'est des warriors, c'est des guerrières, ces femmes-là. Elles ont eu un parcours compliqué, mais elles ont souvent eu beaucoup d'aide de par leurs proches. Et moi, je voulais faire partie de ce processus-là. J'avais envie, moi aussi, d'aider à ma façon, à mon niveau. Et si c'est par l'art, bah, c'est encore mieux. Et du coup, j'ai voulu très vite, en devenant tatoueuse, dès que j'ai vu que ça existait, je me suis dit, plus grande, je veux faire ça. On se substitue pas du tout au médecin, on guérit une fois que le travail est déjà amorcé. On peut permettre de tourner une page, on peut permettre de cacher des cicatrices. Il y a eu un trauma ou un décès, on peut permettre d'ancrer ça pour ne plus avoir à y penser. On peut faire plein de choses avec le tatouage. Quand on parle de tatouage thérapeutique, c'est vraiment de la reconstruction.
Une fois que vous vous estimez assez formé à votre trait, à votre style, vous rejoignez une association, c'est ça, qui répertorie les tatoueurs thérapeutiques comme vous. Comment ça s'est passé?
Alors moi, je les ai contactés. Donc cette association, ce sont les Sœurs d'Encre, qui sont donc basées à Bordeaux. Et je les ai contactés parce que je trouvais formidable d'avoir accès à une formation sur des peaux cicatricielles. Et cette association est accompagnée et épaulée de médecins, de chirurgiens, d'oncologues, enfin voilà, de dermatologues, tout un staff médical qui valide les dossiers. Quand on a un doute sur une cicatrice,
on envoie le message, la photo, on explique le cas et comme ça, on a l'accord ou non de la personne à même de répondre à ça.
Ah, il y a une validation médicale en tout cas.
Quand nous, on a un doute sur des personnes qui ne passent pas par l'association pour venir nous voir, oui. On ne veut pas faire n'importe quoi. Il y a plein de peaux qui sont compliquées à tatouer, notamment les brûlures ou suite à certaines maladies. Dès lors qu'on a un doute, on s'assure toujours que ce soit OK, au niveau de la santé pour la personne. On ne la mettra jamais en danger.
La tatoueuse thérapeutique Caroline Escafit, que nous retrouvons demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le lundi 13h49, nous parlons du français de nos régions avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Mathieu, l'épreuve du bac philo a mobilisé 500 000 de lycéens ce matin, filière générale et technologique. Et cela vous a inspiré ?
Les examens sur table, c'est un véritable rite de passage, un rite redouté, codifié, presque sacralisé. Tenez, moi, ça fait 25 ans tout pile aujourd'hui que j'ai passé le bac philo. Et je me souviens même encore du sujet. L'exigence de justice et l'exigence de liberté sont-elles séparables ? Alors, j'avais eu un très honorable 15 sur 20.
Ah oui, bon élève !
Il faut avouer quand même, Jérôme, que c'était ma deuxième tentative.
Ah, ça relativise un peu la performance.
Exactement, voilà. Mais ce dont je me souviens surtout, c'est de cette tension qui régnait dans la salle. Le silence, les feuilles qui bruissent, la peur que tout s'efface au moment où il faut écrire. La référence qu'on oublie, la citation qui ne revient pas, l'auteur qui se dérobe au moment de conclure. Et c'est sans doute pour ça que certains petits malins, chaque année, seraient tentés de se rassurer en préparant ce qu'on appelle une anti-sèche. Vous savez, ce petit papier plié en 8, griffonné à la hâte, glissé dans une poche. Alors, c'est intéressant. Dit, bien sûr, et je le rappelle, c'est lourdement sanctionné. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas tant le geste que le mot.
Et le mot, il change selon l'endroit où on passe le bac.
Exactement, Jérôme. Dans le sud-ouest, l'antisèche devient une tuste, voire un billet de tuste. Ce mot vient de l'occitan tusta, qui signifie copier ou tricher à l'école. Dans l'est de la France, de Nancy à Marseille, en passant par Lyon, c'est la pompe ou le billet de pompe qui
on
domine.
Pompe, ouais.
Et là, tout est dit. Quand on pompe, on récupère. Et l'idée, c'est pas vraiment de voler, mais c'est de se servir à la source comme on puise de l'eau dans un puits.
Ouais.
Et la pompe, si elle est bien calibrée, elle permet parfois de remonter toute une dissertation à la surface.
Pas mal.
En Normandie, on parle de carotte, c'est un clin d'œil, vous l'aurez compris, au verbe argotique carotter. En Franche-Comté, on parle de colton et en Anjou, en Champagne, on utilise des grattes, ce qui rappelle cette petite tentative de grappiller des points sans vraiment les mériter.
Ça, ce sont pour les noms, il y a des verbes aussi pour dire ça, on dit copier, tricher, mais il y en a bien d'autres.
Et oui, le français régional fait aussi sa petite vie dans ce domaine. Alors bien sûr, tous les mots dont je viens de parler ont donné naissance à des verbes. Tuster dans le Languedoc, coltonner en Franche-Comté, pomper dans l'Est de la France. Mais il y a un mot que j'aime moi-même particulièrement beaucoup parce que je l'ai beaucoup employé. Frouiller. Dans la région Rhône-Alpes, on frouille aux cartes, au Monopoly, à un examen, mais sans jamais faire trop de bruit. C'est une triche douce, presque furtive. Et le mot a même toute une famille. La frouille pour désigner la triche elle-même. Frouillon ou frouilleur pour parler du tricheur.
On rappelle quand même, Mathieu, que la triche, c'est interdit et c'est sanctionné.
Effectivement, alors vaut mieux une copie honnête qu'une gruge mal ficelée.
Voilà.
Malgré tout, si vous avez un petit doute sur Rousseau, que vous avez un trou sur les stoïciens ou que vous avez un peu trop séché les cours cette année, on ne va pas vous gronder, on va juste vous tenir ou vous serrer les pouces comme on fait en Lorraine ou en Moselle. Bon astre, bonne fortune, vous direz les Provençaux, c'est un vœu, oui, mais un vœu qui vous éclaire. Alors bon courage à toutes et tous.
Et ne frouillez pas. Je peux dire ça, Mathieu ?
Oui, exactement.
Merci Mathieu Avanzi, notre linguiste, chaque lundi dans ce 13-14 de C'est la France. Ah, c'est une chanson, votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est une voix bien connue de nos auditeurs. C'est Nicole Ferroni.
Humoriste, animatrice, comédienne que l'on pourra voir à partir de demain sur OCS et Ciné Plus dans la deuxième saison de la série Aspergirl. Elle y tient le rôle principal et c'est de la chanteuse Robin qu'elle a choisi de me parler.
Robin, donc c'est une chanteuse pop suédoise et je l'ai découverte notamment pour son tube le plus célèbre qui est Dancing on My Own. Et c'est surtout à partir de ce tube-là que je l'ai beaucoup aimée puisqu'elle raconte dedans que l'homme qu'elle aime en embrasse une autre et que pendant ce temps, bah, elle continue de danser toute seule. Et en fait, cette situation m'est arrivée quelques années après avoir découvert ce tube.
Un garçon que vous aimiez et avec qui vous étiez ?
Et non, Alors c'est ça qui est assez particulier, c'est que je n'ai pas réussi à être avec ce garçon. Moi je l'aimais, et j'avais bien fait en sorte qu'il ne le voit pas, parce que souvent on fait ça, et ça a bien marché puisqu'il ne l'a pas vu. Et donc un jour il m'a annoncé qu'il était tombé amoureux de quelqu'un. Oh, horreur, patatras, catastrophe. Et là, voyant mon désespoir, ma sœur a décidé de m'inviter à Barcelone pour un week-end. Je vais à Barcelone avec ma sœur, comme tous les touristes nous allons à la cathédrale. Et même si je ne suis pas croyante, moi je suis un petit peu opportuniste. Et donc, dans mon dépit amoureux, je pose une bougie devant Sainte Rita, qui est patronne des causes désespérées. Et à ce moment-là, on est en février 2019. Bon, il y a une fête quand même majeure en février, le 14. Et je ne fais pas la demande très explicite d'avoir un mec pour la Saint-Valentin, mais j'y pense un peu. Et en fait, au retour de Barcelone, il y a un mec chez moi. Mais ce mec est un squatteur. Et quand même, à ce moment-là, je me dis que Sainte Rita, elle est quand même forte. Parce que, du coup, le 14 février, il y avait bien un homme dans mon lit. Bon, c'est juste que je ne l'avais pas choisi.
Bah d'où la question, Frédéric. Qu'a fait Nicole Ferroni quand elle a trouvé ce squatteur installé chez elle ?
Eh bien, c'est précisément, Jérôme, la question que je lui ai posée.
Je décide à ce moment-là de faire deux choses majeures. La première étant de réécouter Robin. Parce que Robin, elle est de bon secours, je trouve. Et l'autre décision que j'ai prise, c'est celle de prendre un chien. Parce que face à un squatteur, c'est quand même bien d'avoir un chien.
On se sent moins seul.
On se sent moins seul. Et puis on se sent en sécurité. Bon, sauf que moi, je décide de prendre un carlin. Qui n'est pas la race la plus effrayante. Mais voilà, en tout cas, j'ai porté mon choix sur le carlin et comme je ne veux pas l'acheter, je décide de l'adopter. Donc je me mets en recherche d'une association pour essayer d'adopter un carlin. Et parallèlement, donc, en réécoutant Robin, je découvre qu'elle vient de sortir un autre morceau qui s'appelle « Honey ». Honey, c'est un morceau qui, à ce moment-là, correspond pas vraiment à ma situation, parce qu'au contraire, c'est un morceau qui raconte la rencontre amoureuse. Et moi, voilà, j'écoute en boucle ce morceau, Honey, comme Get Your Honey, c'est-à-dire viens chercher ton miel. Et parallèlement, donc, je trouve enfin une association qui s'appelle SOS Carlin. Et en fait, un jour, la dame m'appelle, elle me dit « Oui, Nicole, écoutez, je vous ai trouvé une petite chienne, très sympathique, elle est très dynamique. Alors, je ne vous connais pas beaucoup, Nicole, hein, mais vous verrez, elle vous ressemble. » Alors, bon, comme un carlin, ça a les yeux globuleux et une tête aplatie, j'essaie de ne pas le prendre pour moi. Et là, elle me dit « Quand vous viendrez la voir, vous allez voir, elle est très mignonne, elle s'appelle Honey. » Et là, je vous assure, Frédéric, tout mon malheur s'est éclairé. Tout a pris du sens. D'un coup, je me disais, en fait, Robin est venu me dire, mais au lieu de pleurer, viens chercher ton miel, come get your honey. Et donc, je suis allée rencontrer cette petite chienne, qui entre-temps s'appelle Monique. Oui, entre-temps, je l'ai rebaptisée Monique. D'abord, elle n'avait pas trop une tête à s'appeler Honey. Je suis désolée, enfin, les carlins, ils ont un peu une tête de vieille dame dès leur naissance.
Donc, elle avait une tête de Monique.
Elle avait vraiment une tête de Monique. Voilà, donc pour moi, cette chanson, c'est la plus cosmique parce qu'elle témoigne à la fois d'une histoire d'amour qui n'avait pas commencé, mais surtout d'une histoire d'amour qui dure, qui est celle que j'ai évidemment avec Monique.
Coup de foudre réciproque.
Coup de foudre réciproque, oui. Et alors, juste pour ceux qui seraient un peu inquiets de ma situation amoureuse, juste après avoir rencontré Monique, j'ai rencontré un chéri avec qui je suis encore aujourd'hui.
Et le chéri, il vous arrive de l'appeler Honey ?
Alors, il ne m'arrive pas de l'appeler Honey, parce que du coup, je pense à mon chien. En revanche, je crois que j'éprouve pour mon chéri à peu près tout ce que Robin raconte dans cette chanson.
Que de happy end ! Honey par Robin. C'était donc, Frédéric, le choix de Nicole Ferroni.
Nicolas fait...
Nicole.
Nicole. Nicole
Ferroni,
que vous pourrez retrouver avec ou sans Monique, je ne sais pas trop, dès demain sur OCS et Ciné Plus,
oui,
dans la deuxième saison de la série Asperger.
Merci cher Frédéric, on se remet de nos émotions et on se dit à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Les vacances ne sont pas là, heureusement.
Et vous êtes un peu le François-Régis Gaudry de la préhistoire.
Oui, c'est ça.
C'est un peu ça, non ?
On va manger néandertalien aujourd'hui, absolument.
Bon appétit, bien sûr, à tout de suite.
À tout à l'heure.